Prends soin de me présenter. Je m'appelle Raphaël, je suis pasteur à Grenoble. Je suis présent ici avec mon épouse Marion, notre fille Abigail, et j'ai aussi un fils, Samuel, mais qui lui est chez son papy aujourd'hui. Donc voilà, on est que trois. Je vous salue de la part de l'Église, hein, les anciens, donc c'est le CE Grenoble, dite rue Casimir Perrier. Il y a un peu cette même tradition, hein, d'appeler les églises par leur nom de rue. Voilà, donc maintenant, sachez que je connais la rue Sonnera de réputation depuis très longtemps, mais c'est la première fois que physiquement j'y mets les pieds. Donc je suis ravi de vous rencontrer et je vous transmets les salutations généreuses de l'Église. Alors, j'ai proposé un texte quand on m'a contacté par mail par rapport au message apporté. J'ai proposé un texte en me disant qu'il ne passerait jamais. Mais voilà, ça a été accepté, donc ce n'est pas de ma faute. Vous vous tournerez vers vos anciens, d'accord ? Et c'est un texte assez difficile, donc Marion, quand j'arrive à la conclusion, tu sors discrètement, tu fais chauffer le moteur, d'accord, au cas où. Mais ce matin, je vais revenir sur une histoire qui est assez horrible. L'histoire d'un homme qui a sacrifié sa fille au nom d'un vœu fait à Dieu. Jephté, exactement. Un texte ô combien difficile, un texte les plus durs de la Bible, je crois qu'on peut le classer dans le top 10 des textes qui nous rendent le plus mal à l'aise quand on les lit. Pourquoi cet homme a-t-il fait cela? Pourquoi sa fille a-t-elle accepté cela? Et surtout, comment ce récit peut-il avoir sa place dans la Bible et son utilité pour nous, pour notre foi aujourd'hui? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre. Et étonnamment, vous allez voir, je l'espère, ce texte nous amène à une des conclusions les plus belles à propos de Dieu et une des plus grandes et belles vérités qu'on a dans la Bible. Alors je vous propose sans plus attendre qu'on le découvre et qu'on le relise ensemble. Je vous laisse ouvrir vos Bibles dans le livre des Juges, au chapitre 11. Donc Juges chapitre 11, et je vais lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 40. Verset 29. Alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephté. Celui-ci traversa les territoires de Galaad et de Manassé, puis il passa à Mitzpah en Galaad. Et de là, il s'avança pour attaquer les Ammonites. Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit « Si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre. Quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites, Jephté se lança à l'attaque des Ammonites et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Il leur infligea de lourdes pertes dans 20 bourgs situés entre Aroer et Minit et jusqu'à la région d'Abel-Kéramine. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites qui furent ainsi affaiblis par les Israélites. Après la bataille, Jephté retourna chez lui à Mitzpah. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils, ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écriant « Ah, ma fille, tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui cause mon désespoir? J'ai donné ma parole à l'Éternel et je ne puis revenir sur ma promesse. » Elle lui dit « Mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis, puisque l'Éternel a réglé leur compte aux Ammonites, tes ennemis. » Puis elle ajouta « Je ne te demande qu'une chose, accorde-moi un délai de 2 mois. J'irai avec mes amis dans les montagnes pour y pleurer de ce qu'il me faille mourir avant d'avoir été marié. » Jephté lui dit « Va !» Et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis sur la montagne pour y pleurer et devoir mourir sans être mariée. À la fin des 2 mois, elle revint auprès de son père et il accomplit envers sa fille, qui avait été vierge, le vœu qu'il avait fait. C'est là l'origine de la coutume qui s'établit en Israël. Chaque année, les jeunes filles s'en vont pendant 4 jours pour célébrer la fille de Jephté, le Galaadite. Lourd, injuste, dramatique, cruel, moi ce récit me met extrêmement mal à l'aise, il me donne presque la nausée. En plus d'être révoltant, il est inutile à la trame biblique. Si vous vouliez découper ce texte de votre Bible, vous pourriez le faire et vous ne perdriez rien à l'ensemble du grand récit. Ne faites jamais ça. Hein ? D'accord ? Mais Dieu a voulu que nous l'ayons. Il l'a inspiré et Dieu veut que nous puissions nous en nourrir. Et nous avons beaucoup de choses à apprendre. Le Saint-Esprit l'a inspiré pour nous. Mais ce drame est incompréhensible de prime abord, n'est-ce pas ? Tellement lourd, tellement triste. Imaginez-vous présent lors de cette scène. Jephté a vécu pendant une période trouble. C'était un chef politiquement ambitieux, un héros de guerre courageux, et il avait une fille unique qu'il aimait. Probablement qu'il aimait la faire sauter sur ses genoux le soir pour l'endormir, qu'il lui racontait des histoires, qu'il lui faisait tâter ses biscottos pour lui montrer comment il était un papa qui était fort et qui pouvait la protéger. Peut-être qu'il l'appelait « ma petite princesse ». Imaginez-vous à sa place, lorsqu'il arrive au loin et qu'à l'horizon, il voit sa fille venir à lui en dansant. Et que petit à petit, il la reconnaît et qu'il dit « non, c'est bien Nel ». De son côté, elle, c'est une jeune fille qui était très amoureuse de son papa, probablement, qu'elle l'aimait, et comme toutes les filles, elle le considérait comme son héros. Et quand elle entend les bruits que son père est en train d'arriver, elle court à sa rencontre en dansant pour célébrer sa victoire, mais en se rapprochant de lui, elle voit que dans son regard, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et là, il lui explique le vœu qu'il a fait. Et son univers tout entier s'effondre. Pour elle comme pour lui, plus rien n'ira bien à partir de là. Dieu avait respecté sa parole, n'est-ce pas ? Il avait eu la victoire. Il devait donc respecter la sienne. Et devant ces hommes, comment faire marche arrière sur un vœu qu'il avait fait ? Et elle obéit à son père. Tout naturellement. Ce texte est difficile à comprendre. C'est une tragédie digne de Shakespeare ou des Feux de l'amour ou je ne sais quelle soap, Plus belle la vie ou voilà un petit peu tout, enfin, mais vraiment dramatique en tout cas. Et nous allons tenter maintenant de le comprendre en deux étapes. D'abord, on va essayer de comprendre ce qui se passe pour chacun des protagonistes de cette histoire et puis ensuite nous verrons comment est-ce que cela quelles conclusions nous pouvons tirer de ce texte. Première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Jephté a-t-il fait ce vœu complètement fou ? Pourquoi cette prise de risque ? Je crois qu'il y a chez Jephté, nous allons le voir, un dangereux cocktail d'ignorance et d'arrogance. A-t-il agi par ignorance de la loi de Dieu ? Plusieurs éléments vont dans ce sens. C'est une partie de la réponse. Premièrement, Jephté n'était pas un sacrificateur. Jephté n'avait pas le droit d'offrir ou de décider de ce qui devait être offert à Dieu comme sacrifice. Seuls les sacrificateurs, qui étaient un groupe à part dans le peuple, avaient ce droit-là. Deuxièmement, ce vœu comprenait évidemment le risque qu'une personne sorte de chez lui. Ça pouvait être, je ne sais pas, un animal, un chat, un chien, une poule, ou que sais-je, ou une souris, peut-être mieux, mais ça pouvait être son épouse, un de ses amis, sa fille. Et faire un tel vœu va à l'encontre de ce qui est recommandé par Dieu de façon mais absolument interdit dans la loi, c'est un sacrifice humain. La loi de Dieu revient plusieurs fois dessus. Vous pourrez aller voir dans Deutéronome chapitre 12, chapitre 18, etc. On n'a pas le droit d'offrir une vie humaine en sacrifice. Jephté était-il convaincu que l'impossibilité de revenir sur son vœu fait à Dieu était un commandement supérieur à celui de ne pas tuer son prochain? Parce qu'effectivement, lorsque l'on formulait un vœu, on n'avait pas le droit de revenir dessus. Et Jephté s'est-il dit, non, trop tard, j'ai fait un vœu, même si c'est ma fille, et que Dieu m'a dit, tu ne tueras pas ton prochain, et que je dois prendre soin de ma fille, je vais quand même la tuer. Est-ce qu'il y a eu une confusion à ce niveau-là, une méprise de sa part? D'autant plus que, selon la loi du Lévitique, au chapitre 27, il aurait pu racheter son vœu moyennant une somme d'argent. Il aurait pu offrir aux Lévites une somme d'argent pour dire, écoutez, j'ai fait un vœu à la légère, et donc je le rachète parce que je n'ai pas les moyens d'offrir ce que je voulais offrir en sacrifice. Première piste, méprise de la loi de Dieu. Deuxième piste, a-t-il voulu manipuler Dieu par incrédulité? Et là, on peut peut-être plus s'identifier. Regardez, le verset 30 nous donne un indice intéressant. Il dit, si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, si vraiment tu me la donnes, Jephté croyait-il pouvoir manipuler Dieu en lui offrant une raison de plus de lui accorder la victoire? Alors si tu m'offres ça, en retour je te promets de te donner ça. Jephté avait été établi par les anciens d'Israël. Jephté avait été appelé par Dieu, il avait été établi par Dieu, on le voit au chapitre 11, verset 29 en particulier, et Jephté sait qu'il fait partie d'une histoire où le peuple a dû conquérir la terre promise, et maintenant ils doivent finir de consolider le royaume que Dieu leur donnait. Donc Dieu était avec lui, il était envoyé par Dieu, et la question de la victoire ne se posait pas, puisque c'était le plan de Dieu. Il devait juste lui obéir et être fidèle. Mais est-ce que ces raisons-là étaient suffisantes pour lui? Est-ce que ça suffisait pour accorder sa confiance en Dieu? Peut-être vous le savez, le livre des Juges est un livre qui nous rappelle que c'était une époque où, voilà, chacun faisait ce qui lui semblait bon, au lieu de suivre la loi de Dieu, tout simplement. Au lieu de suivre la volonté de Dieu, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et Jephté, je crois, n'échappe pas à ce constat, au contraire, il l'illustre. Il a fait ce qui lui semblait bon, ce qui lui semblait nécessaire pour obtenir la faveur de Dieu. Alors, avant de passer à ce qu'on apprend sur sa fille, rapidement, juste deux pistes. On ne négocie pas avec Dieu. Les commentateurs disent que la leçon de la vie de Jephté, c'est de ne pas faire de vœux à Dieu qui soient inconsidérés. Je suis d'accord, certes, mais qu'est-ce que cela veut dire? La reconnaissance que nous devons lui manifester n'est pas selon notre bon vouloir ou nos humeurs ou notre originalité. Il y a quelque temps, quelqu'un me disait, un célibataire, un jeune chrétien me disait, écoute, moi je veux faire confiance à Dieu, et d'ailleurs c'est une histoire vraie, hein. Et moi je fais confiance à Dieu, et pour te dire que je fais confiance à Dieu pour mon mariage, je sais que la prochaine fille que je rencontrerai qui se rongera les ongles, ce sera un signe que je dois l'épouser. Et j'ai dit ça dans ma prière à Dieu. C'est vrai, hein, je n'invente rien. Il m'a dit, c'est pour montrer à quel point je fais confiance à Dieu. Et proposer quelque chose de fou à Dieu, c'est plutôt révélateur de notre désir de marchandage, de notre propre folie, que de notre confiance. Le marchandage avec la divinité, avec Dieu, était propre aux religions idolâtres. On offre des choses à Dieu en espérant obtenir sa faveur. On essaye de donner des compensations à Dieu pour ainsi dealer avec lui et être sûr que Dieu nous accordera ses bonnes faveurs et nous donner la réussite, le travail, la santé, le bonheur en amour, la maison, le labrador, le 4x4, la piscine, etc. Et cela démontre que nous ne comprenons pas qui est le Dieu de la grâce, qui est le Dieu souverain qui n'agit que selon ses desseins bienveillants, que selon son plan. Dieu a donné une promesse à son peuple, et c'était sur cette promesse que Jephté devait s'engager dans la bataille. Et lui, il a fait ce vœu inconsidéré. Deuxième piste aussi pour nous, adorer Dieu, c'est l'adorer selon sa volonté et pas la nôtre. Pour Jephté, c'était montrer un signe de reconnaissance. Mais les signes de reconnaissance que nous devons montrer à Dieu ne sont pas selon notre bon vouloir uniquement. Certes, nous avons une liberté, nous pouvons dire à Dieu selon ce qui vient de notre cœur, mais cela doit toujours être en accord, en corrélation avec sa parole, bien sûr. La foi, l'expression de notre foi la plus enthousiaste, la plus zélée, reste en parfaite cohérence avec la parole. Michel Yonner rappelle que la communion avec Dieu est avant tout fidélité. Elle est essentiellement pour le croyant une réponse à une promesse de grâce qui toujours précède sa propre réponse modeste et fragile. La communion vécue avec Dieu par la foi, dans la confiance, est avant tout une réponse à sa parole. Nous nous nourrissons de sa parole et nous pouvons lui manifester notre obéissance et notre reconnaissance. Je n'ai pas à décider d'offrir aujourd'hui, pour montrer à Dieu tellement que je l'aime, un sacrifice. Si aujourd'hui j'offre un sacrifice à Dieu d'un agneau ou encore pire de ma fille, je vais à l'encontre de sa parole et ça ne montrera pas ma foi, mais ma folie. On est bien d'accord là-dessus. Est-ce qu'un engagement qui se fonde sur la grâce de Dieu à mon égard, ou sur mon désir personnel et ma volonté de prouver à Dieu, ou aux autres, à l'Église, à son conjoint, que sais-je, est-ce qu'elle souligne ma fidélité, ma dépendance, ou ma suffisance et mes capacités? Revenons maintenant au récit, revenons à ce qui arrive à cette fille. Pourquoi a-t-elle accepté cette injustice? Pourquoi? Question épineuse s'il en est. Elle aurait pu contester, légitimement. Elle aurait pu probablement trouver du soutien autour d'elle, monter à un syndicat qui puisse la défendre, en appeler aux juges, aux autorités de la région, en appeler aux anciens de la ville, en appeler aux lévites. Elle aurait pu tenter de faire quelque chose pour négocier. Mais sa réponse est encore presque plus troublante que le vœu qu'a fait son père. Verset 36. « Mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis, puisque l'Éternel a réglé leur compte aux Ammonites, tes ennemis. » Sans objection aucune, elle accepte librement son sort, sans même lui adresser un reproche. Elle aurait pu décider d'obéir, mais en même temps lui faire des reproches qui auraient été légitimes. Pourquoi? Par soumission au commandement d'honorer ses parents? Bien évidemment que le commandement d'honorer ses parents ne va pas à l'encontre des autres commandements que l'on a dans la Bible. Si tes parents te demandent de faire quelque chose que Dieu interdit, tu ne leur obéis pas. Pourquoi? Le texte ne le dit pas. Certains présupposent, comme commentateur, qu'elle avait compris la fragilité de l'unité d'Israël et que mettre son père en porte-à-faux par rapport à ces hommes pouvait mettre la nation en péril. C'est une spéculation pure, peut-être, mais en tout cas, le texte ne nous le dit pas. Certains commentateurs expliquent que finalement, elle n'a pas été tuée par son père, mais qu'elle a été vouée au célibat. C'est une option d'interprétation. Après avoir regardé, ma conclusion personnelle, c'est que, au regard des arguments, cette interprétation relève plus du malaise à comprendre pourquoi cet homme fait ça, à comprendre pourquoi Dieu laisse cette chose venir et à comprendre pourquoi elle va, elle, jusqu'au bout, que parce que le texte nous dit. Au contraire, le sens du verset 39 dit clairement « Et il accomplit envers sa fille qui était vierge le vœu qu'il avait fait ». Si le texte est certes sobre, il n'en est pas moins clair. Pourquoi a-t-elle accepté? J'ai dit en introduction que cette triste histoire nous révèle l'une des plus belles vérités de la Bible. Rien, absolument rien, n'obligeait cette fille à mourir devant Dieu. Et c'est ce qui prouve sa motivation. La seule raison pour laquelle elle a fait cela, c'est par amour. C'est la seule motivation que l'on peut trouver. Alors qu'elle ne lui doit rien, alors qu'elle n'est obligée de rien, alors qu'il ne le mérite pas, elle s'offre par amour. Elle montre un amour qui ne se préoccupe pas des conséquences pour sa propre vie et décide de servir l'autre jusqu'à la mort. Un amour qui assume la faute de l'autre et en subit les conséquences. Cette jeune fille nous rappelle que l'amour pousse même l'innocent à payer à la place du coupable. Et là, probablement que nos yeux commencent à s'éclairer et qu'on commence à comprendre quels échos on peut retrouver dans la Bible. Le théologien Gérald Bray rappelle que la motivation de cette jeune femme n'est pas exprimée dans le texte, mais qu'elle est claire quand on la considère cet événement au regard des événements les plus glorieux de l'Écriture. La seule raison pour laquelle elle accepte de faire cela pour son père, c'est par amour. C'est l'amour d'une fille pour son père qui la pousse au plus grand des sacrifices pour un homme qui ne le mérite pas. Vous me suivez? Rappelons-nous ce qu'est le sacrifice. Rappelons-nous bien, très courtement. Le péché n'est pas une abstraction intellectuelle, une conception philosophique, mais la réalité de l'offense faite à Dieu. Et dans sa pédagogie, Dieu a donné le sacrifice pour qu'il soit une piqûre de rappel dans le but de rappeler cette réalité. La chute a introduit le péché et le péché en nous introduit la mort. Eh bien, la mort, on ne s'approche de Dieu que par la mort et en offrant un sacrifice. Cette notion de sacrifice présente dans notre culture, pour nous, actuelle, quelque chose de totalement primaire, barbare, moyenâgeux, primitif, inacceptable. Chacun doit payer pour ses fautes, n'est-ce pas ? On doit assumer ses responsabilités. Cette jeune fille nous dévoile un amour qui pousse même l'innocent à payer à la place du coupable. Son sacrifice est un acte d'amour. Il se passe en dehors total des clous, en dehors total de la volonté de Dieu et de la loi qui a été révélée à Moïse. Mais malgré tout, dans ce contexte complètement biscornu, un acte totalement dingue, ce texte nous apprend beaucoup sur l'intention de Dieu au travers des sacrifices. Ce sacrifice inutile pointe vers le sacrifice indispensable. Un sacrifice inutile qui pointe vers le sacrifice indispensable. Et ce texte, aussi insignifiant et anecdotique, c'est la rubrique des chiens écrasés dans la Bible, hein, c'est un fait divers, certes morbide, mais qui n'a pas une grande place, nous permet toutefois d'entrevoir, de regarder un peu comme par le trou de la serrure, le plan de Dieu et la beauté du sacrifice de Jésus. Autant ce sacrifice-là est un scandale, autant celui de Christ est un bien plus grand scandale, une bien plus grande injustice. Malgré elle, cette jeune fille nous permet de méditer sur la nécessité et la perfection du sacrifice de Jésus. La mort de cette fille était un événement fortuit, un événement qui semble complètement lié au hasard ou à la malchance quand on y regarde simplement avec les yeux des hommes. Alors que la mort de Jésus, elle, est prévue et annoncée de toute éternité. Tout comme cette jeune fille, rien, absolument rien, n'obligeait Jésus à mourir pour nous. Il n'était obligé de rien. Son sacrifice à elle, cette jeune fille, n'a pas lavé le péché de son père. Au contraire, elle l'aggrave. Elle montre encore plus à quel point cet homme était fou. En revanche, le sacrifice de Jésus, lui, parfaitement efface notre péché et nous lave de nos offenses. Et j'aime beaucoup dans Hébreux 10 ce rappel que fait l'auteur que le Christ, lui, a souffert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Et il siège à la droite de Dieu, où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Hébreux 10, versets 12 à 14. Ainsi, le sacrifice de Jésus à la croix est la plus grande démonstration de la grâce. Il s'est sacrifié alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Et qu'est-ce qu'on apprend aussi sur Dieu le Père au travers de ce texte? Si Dieu avait été un Dieu à l'image de Jephté, un Dieu qui marchande, un Dieu qui est injuste, nous devrions trembler à chaque instant en nous posant la question, mais qu'est-ce que Dieu va attendre de moi? Qu'est-ce qu'il va me demander de fou pour lui plaire? Heureusement pour nous, Dieu n'est pas Jephté. C'est lui qui condamne le péché, c'est lui qui exige un sacrifice pour réparer l'offense du péché, et finalement, c'est lui-même qui pourvoit au sacrifice. Alors qu'il est la victime, il se fait coupable à notre place. Il endosse mes fautes, ma culpabilité, ma condamnation, ma punition à cause de son amour, librement. Et il n'était pas obligé de le faire. L'ampleur infinie de l'amour de Dieu envers les coupables, alors qu'on est incapable de réparer nos péchés, lui le fait pour nous. Pour conclure, je crois que dans ce texte, on voit un homme qui sacrifie sa fille et qu'en prenant le temps de méditer dessus, ça nous donne envie d'adorer. Il sacrifie sa fille et ça nous donne envie d'adorer. Dans ce texte, si nous pouvons nous identifier à quelqu'un, c'est bien à Jephté. À chaque fois que nous oublions que c'est par la grâce seule qu'on s'approche de lui, nous lui ressemblons. À chaque fois que nous croyons que en dehors, nous avons besoin de quelque chose en plus de ses promesses, en plus de ce que Christ a accompli pour nous, nous tentons de marchander avec lui. Nous voulons apporter, mettre quelque chose sur la table des négociations qui va faire pencher en notre faveur. Et si on n'a rien à apporter, on se dit, eh bien Dieu ne pourra pas être favorable, parce qu'on oublie que le sacrifice de Christ est pleinement suffisant, satisfaisant pour lui et qu'il doit donc l'être pour nous. Nous aussi, comme Jephté, nous avons besoin que quelqu'un assume notre péché, en assume les conséquences. Et nous avons un immense avantage sur Jephté. C'est la fille de Jephté qui a dû assumer les conséquences du péché de son père. Et nous, nous savons que c'est Jésus qui a accepté de subir les conséquences de notre péché. Et c'est précisément sa mort qui me lave de mes fautes. Il fait pour moi ce que je suis incapable de faire. Alors quotidiennement, c'est mon invitation à ce qu'on se rappelle qu'on ne se rapproche de Dieu que par le sacrifice de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous pouvons nous présenter devant Dieu, au nom de ce que Christ a fait pour nous, que nous pouvons être dans sa présence. Et ce sacrifice est pleinement suffisant. Ce sacrifice m'a lavé, m'a purifié. Et c'était le seul sacrifice qui pouvait le faire. Ainsi, la seule réponse que nous devons lui apporter, le seul sacrifice qui lui plaît, c'est celui qui nous est présenté en Romains 12. Et je termine avec ces mots-là. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, non pas sanglant, qui implique la mort, mais un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est à cela que nous sommes invités, à donner à Dieu une vie, pas une mort, mais une vie en réponse à la mort et à la résurrection de Christ pour nous. Que Dieu vous bénisse.